Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hablas espagnol?
Un poquito.
Tu connais l'Espagne?
Ouais, je connais un peu Ibiza.
Celui qui triomphe, il songe celui qui s'affaire et prétend, il songe celui qui outrage et offense. Dans ce monde, tous songent ce qu'ils sont, mais nul ne s'en rend compte. Moi, je songe que je suis ici chargé de ces fers, et j'ai songé m'être trouvé en un autre état plus flatteur. Qu'est-ce que la vie? Un délire. Qu'est-ce donc la vie? Une illusion, une ombre, une fiction, le plus grand bien et peu de choses, car toute la vie n'est qu'un songe, et les songes, rien que des songes. Et l'équipe des Nouveaux Chemins songe, elle aussi, à ce qu'elle est. Colomba Grossi, Marianne Chassor, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marie Aubert, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontanille. De l'Espagne, comme de tout pays ou de toute culture, les clichés vont bon train. Et alors qu'il y a un mois à peine, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a, peut-on lire dans la presse, lancé une croisade anti-sieste, chacun a pu y aller de sa précision sur ce qui n'était pas un canular, mais relevait bien d'une institution. Ou encore a pu y aller de sa mention d'un « tout stéréotype à part de précaution ». À ces clichés en réaction, le mot de Calderón fait pourtant mieux qu'une mise en garde en guise de mise en bouche. Car à la question « qu'est-ce que la vie ?», la réponse enchaîne « un délire, une illusion, une ombre, une fiction » suffit bien à dynamiter toute prétention, à définir quelque personne ou culture que ce soit. Et pourtant, à aller sur les traces de la philosophie espagnole, d'une philosophie dite espagnole, comme s'il y avait une essence de l'Espagne, ne courons-nous pas le même risque? En faisant une telle entrée en matière, ne prenons-nous pas nous aussi nos précautions? Mais que faire alors? Faudrait-il renoncer à aller sur ces traces, à la comprendre, à en parler? Au contraire, si l'on prend Calderón au mot, tentons-nous aussi de nous rendre compte. Tentons de prendre au sérieux, pour dédramatiser, que la vie est un songe et peut-être que la philosophie est elle aussi un songe. Demandons ce qu'elle est, ce que sont ses clichés. Demandons ce que c'est que penser, ce que c'est que démontrer et voyons quels sont ses fers. Et peut-être voudrons-nous alors songer à la trouver dans un autre état, plus flatteur. Voudrons-nous songer à la rêver autrement. Et c'est sûrement ce qu'offrent ces trois moments de la philosophie espagnole que nous allons découvrir cette semaine, du siècle d'or au XXe siècle, de la révolution humaniste qui fait de chaque esprit un corps singulier, à l'art de cultiver l'artifice de Balthazar Gracian, jusqu'à l'art de ne pas s'engager de Miguel de Unamuno. C'est bien l'heure de dévoiler autant de songes qui ne seront pas non plus ceux de la littérature, ni ceux de Calderón, ni ceux de Cervantes. Autant de songes qui n'auront rien de fiction, mais seront bien, entre la philosophie qui se délire et l'illusion qu'il n'y en n'a pas, ce qui est bien la même chose, autant de manières, comme le dit Miguel de Unamuno, de vivre les idées. Et pour commencer, eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir Marina Mestre Saragossa, maître de conférences de langue et littérature espagnole à l'ENS de Lyon et directrice adjointe de l'Institut d'Histoire de la Pensée Classique, auteur d'un livre à venir sur l'anthropologie des passions au XVIe siècle et d'une traduction elle aussi à venir du De Anima Evita de Juan Luis Vives dont nous allons parler. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Mi muy querido amigo y paisano, cuando pensaba continuar hablando con todo reposo acerca de los medios de facilitar a la generación actual el conocimiento de nuestra ciencia antigua, se me atraviesa el ingenioso y agudo crítico don Manuel de la Revilla, que en el último número de la revista contemporánea nos lanza tremenda filipina, llamando mito a la filosofía española y soñadores a los que en ella nos ocupamos. Mon très cher ami et concitoyen, alors que je pensais en toute quiétude continuer à parler des moyens de faciliter à la génération actuelle l'accès à la connaissance de notre science passée, voilà que je tombe sur Manuel de la Revilla, spirituel et acerbe critique, qui, dans le dernier numéro de la Revista Contemporanea, nous lance une terrible philippique, taxant la philosophie espagnole de mythes et de rêveurs, ceux qui s'en occupent. Il est juste entre nous de prendre en considération les affirmations de ce monsieur. Je commencerai en signalant qu'il ne m'a pas semblé étrange de les voir imprimés dans la dite revue, tant cette publication professe une haine mortelle contre tout ce qui pourrait avoir saveur d'Espagne. Je suis convaincu que M. de la Revilla ne doit pas avoir beaucoup approfondi l'étude de nos philosophes, puisqu'il écrit que leurs œuvres sont ignorées et que la philosophie espagnole est un mythe. Terme qui ne s'applique pas à ce qui est mauvais, mais à ce qui n'existe pas, à ce qui relève de la fable et du mensonge. Mais de ce qu'on ignore et qu'on tient pour un mythe, il n'y a pas à affirmer que c'est bon ou mauvais. La question est, cela existe-t-il ou pas? Mais puisque la philosophie espagnole existe bel et bien, comme cela est plus qu'abondamment démontré, que M. de la Revilla se mette à l'étudier et qu'il nous fasse part ensuite de ses impressions. Qu'il prenne les œuvres de Lulio, Vives, Fox, Suarez et tutti quanti, qu'il les lise avec la même attention et le même amour que s'il lisait Darwin, et alors il pourra nous dire avec quelque légitimité si de tels écrivains sont méprisables ou dignes d'admiration et de louange.
Marina Mestre vient d'entendre interpréter par Jean-Louis Jacopin, alors à la fois en langue originale, c'est-à-dire en espagnol et en français, un texte de l'universitaire Marcelino Menéndez Pelayo. Alors un universitaire, il a plusieurs casquettes, philosophe, historien des idées, écrivain, critique littéraire. Et dans cet article de 1876, je signale que la collaboratrice de l'équipe Colomba Grossi et notre comédien Jean-Louis Jacopin ont eux-mêmes traduit. Eh bien on peut dire que dans cet article, le ton est donné. Il ne s'agit même pas de savoir si la philosophie espagnole est bonne ou mauvaise, il s'agit même de savoir si elle a existé. Pourquoi un tel débat sur l'existence ou pas de la philosophie espagnole, Marina Mestre ?
Oui, effectivement, c'est assez curieux cette polémique que l'on appelle la polémica de la ciencia española, la polémique de la science espagnole qui éclate, enfin qui semble éclater comme ça au XIXe siècle. En fait, c'est un revival, une reprise d'une attaque qui était venue d'un Français, ce monsieur Masson, qui avait écrit dans une encyclopédie au XVIIIe siècle que l'Espagne était un beau pays, mais que les Espagnols ne savaient pas penser. Cela avait bien sûr ému les Espagnols, qui s'en étaient défendus du mieux qu'ils en avaient pu. On retiendra le nom de Juan Pablo Forner, essentiellement, qui était sorti défendre le bon nom de l'Espagne. Et en fait, on a malgré tout l'impression qu'effectivement, à partir du XVIIIe siècle et de cette attaque, les Espagnols ont plus ou moins intériorisé de façon sournoise cette idée selon laquelle l'Espagne n'aurait rien apporté à l'histoire de la philosophie universelle. Et c'est très curieux, je ne crois pas que l'on retrouve une situation similaire dans d'autres pays européens tels que l'Italie, l'Angleterre ou la France, de se demander s'il y a oui ou non une philosophie espagnole, une philosophie tout court, une philosophie nationale. Alors déjà, on peut s'interroger sur la pertinence d'accoler le gentilice espagnol, français, italien. Est-ce qu'une philosophie doit être autre chose qu'universelle, sauf peut-être si elle pense elle-même la nation en tant que telle. Je pense qu'on peut au moins s'interroger. Mais effectivement, ça paraît une particularité espagnole et on en est encore les héritiers.
Alors, à défaut de trouver, de penser en fait, de buter sur cette question qui sera qu'on ne peut pas dénouer, de savoir dire une philosophie espagnole présuppose une essence de l'Espagne qui serait impossible à déterminer sans tomber dans le cliché ou pire. Mais inversement, on peut se poser la question de ce qu'est la philosophie et se demander si le débat, cette querelle de la science qui éclate au XIXe siècle en Espagne à propos de la production philosophique du siècle d'or, en fait, ne remet pas en cause la forme même de la production de cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a plus en tête la production littéraire, Calderón, Cervantes. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a entendu, il est question de mythes, de fables, de mensonges. Et c'est vrai qu'on associe le siècle d'or espagnol à une production littéraire plus qu'intellectuelle et philosophique, dirons-nous.
Oui, effectivement. Mais déjà, il faut penser que ce qu'on entend par siècle d'or espagnol va grosso modo de la moitié du XVIe siècle à la moitié du XVIIe siècle. Et que du point de vue, disons, de la production et théorique et littéraire, il y a, on parle évidemment de façon assez approximative, mais il y a quand même, disons, une fracture au passage du siècle. On peut dire qu'au XVIe siècle, on a une grande quantité de très belles réalisations théoriques qui sont moins évidentes au XVIIe siècle, où là, c'est la littérature qui vraiment prend le devant de la scène. Tous les grands noms que nous avons cités, depuis Calderón, avec qui vous avez très joliment ouvert l'émission, jusqu'à Cervantes, Lope, etc., ce sont des noms pour Lope Cervantes de la fin du XVIe, mais surtout qui vont s'imposer plutôt dans le XVIIe siècle. Donc il y a déjà cette espèce de dualité du siècle d'or. On appelle siècle d'or, mais c'est une unité d'une étiquette assez discutable en soi. Donc il y a ces deux moments dans le siècle d'or. Après, moi je suis quand même assez sceptique sur cette tendance à mettre en avant les grands noms de la littérature comme représentants de la véritable philosophie espagnole. Je pense qu'il faut vraiment dépasser cela et que ça ne marche pas plus pour les grands noms de la littérature espagnole que ça ne marcherait pour les grands auteurs de la littérature française. Pourquoi ? Évidemment, nous avons Descartes au XVIIe siècle qui, disons, prend le devant de la scène. Mais pourquoi Descartes, dans ce cas-là, serait plus représentatif de la philosophie française que, je ne sais pas, un Corneille ou un Racine ? Donc là, je pense qu'on touche à des questions plus théoriques des rapports entre littérature et philosophie que véritablement à ce qui nous permettrait de définir ce que serait une philosophie spécifiquement espagnole.
Quel portrait intellectuel, disons philosophique, pourrait-on faire alors de cette première moitié du siècle d'or que vous avez évoqué, Marina Mestre ? Quelles sont les grandes idées ? Quels sont les grands courants ? Quelle forme ce siècle d'or philosophique prend-il ?
Alors il y a différents courants, et d'ailleurs la polémique entre Marcelino Menéndez Pelayo et Manuel de la Revilla est caractéristique à ce sujet. Menéndez Pelayo va attaquer de la Revilla en essayant de l'accabler de sa très grande érudition et en citant tout un tas de noms, tout un tas de courants. Il y a bien sûr la scolastique, la nouvelle scolastique, l'école de Salamanque, c'est sans doute la dimension la plus connue à l'étranger, des noms tels que Vitoria ou plus tard Suarez, ce ne sont pas les seuls. Mais il y a aussi un courant de pensée médicale et anthropologique extrêmement important. Disons un humanisme très, très prégnant. Il y a une pensée anthropologique en Espagne à ce moment-là qui est particulièrement intéressante et là aussi c'est un des éléments de la polémique entre Menéndez Pelayo et Manuel de la Revilla, dans quelle mesure la philosophie espagnole ou la pensée espagnole à l'époque a pu influencer les courants européens. Et ben justement, je pense que ça s'applique parfaitement au courant anthropologique espagnol. Il y a, me semble-t-il, une grande influence de ces penseurs dans des penseurs européens postérieurs.
On va entendre un extrait justement de Juan Luis Vives, qui est l'un de ces penseurs de l'anthropologie espagnole.
Thank you.
Bibès est le plus prodigieux des artisans de la Renaissance, penseur critique de premier ordre, rénovateur de la méthode avant Bacon et Descartes, initiateur du psychologisme écossais, modèle de clarté, d'élégance et de rigueur logique, philosophe en qui prédomine toujours le jugement et le sens pratique, jamais incompatible chez lui avec une haute pensée qui, accessible à tous, ne s'apaise jamais cependant à la facilité du discernement vulgaire. Combien serait utile une résurrection de la doctrine de Bibès en cette époque d'anarchie philosophique, plus éprise de l'ingénieux que du solide, de l'obscur que du raisonnable.
On a trouvé bon d'appeler ingenium la force tout entière de notre entendement, parce qu'elle se découvre et manifeste par l'intermédiaire des instruments. En effet, l'entendement se trouve dans notre corps comme celui qui est enfermé dans une chambre, sans autre fenêtre pour regarder dehors qu'une vitre. Celui-ci ne peut assurément pas voir autre chose que ce que la vitre permet. Il voit plus clairement si elle est très propre et transparente, et moins clairement si elle est recouverte de poussière et de saleté. Et il en va de même pour notre entendement dans le corps que pour celui qui est enfermé dans la chambre et qui n'ignore pas que la vitre fait obstacle, l'empêchant de voir les choses clairement et manifestement. Il est certes conduit par les sens, mais il les corrige lui-même. Saint Jérôme compare notre entendement parmi les sens à un homme à cheval. Le cavalier ne va nulle part si ce n'est porté par le cheval, mais c'est pourtant lui qui dirige le cheval. Voilà la différence entre l'homme et la bête, car l'homme soutient la faiblesse des sens et les nombreuses erreurs et découvre leur tromperie grâce à la raison. En revanche, l'animal, parce qu'il est privé de raison, ne comprend rien de cela. Tel est le détachement de notre entendement de la matière, car il s'élève sur celle-ci et sur toutes les choses qui relèvent d'elle et de l'imagination, bien qu'il ne puisse rien faire sans un instrument matériel pendant qu'il évolue parmi des choses concrètes et corporelles.
Marina Mech, j'ai lu un extrait du portrait dithyrambique que Menéndez Pelayo, dont on a parlé à l'instant, fait donc de Juan Luis Bibès, qui est un des penseurs représentatifs de cette anthropologie que vous venez d'évoquer. Et donc on a entendu cet extrait interprété par Jean-Louis Jacopin, un extrait de son De Anima Evita qui date de 1538. C'est un extrait du chapitre 6 du livre 2 qui a été traduit par vos soins, Marina Mestre. Alors comme le dit Menéndez Pelayo, Bibès est un philosophe en qui prédomine le sens pratique. Et c'est ce qu'on entend avec ce concept d'ingenium intraduisible en français. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est cet ingenium, Marina Mestre ?
Oui, alors je me permettrai de juste revenir, dire un mot sur cette présentation de Menéndez Pelayo sur Vivès, puisque effectivement Vivès est merveilleux pour Menéndez Pelayo. Il lui permet de répondre à De la Reville en lui disant, mais si nous avons quelqu'un qui a préparé toute la philosophie européenne du XVIIe siècle que vous admirez tant, et qui a créé lui une école. Problème de cette façon de voir, dont Vivès a beaucoup pâti et même sous la... et surtout peut-être sous l'université franquiste la première moitié du XXe siècle, quoi, une trop grande partie du XXe siècle, c'est de vouloir en faire un précurseur. Problème aussi, c'est que à vouloir ainsi le mettre en avant, on risque de l'écraser sous les penseurs qu'il aurait plus ou moins inspiré. Donc certes, il faut réfléchir, il faut mettre en avant ces filiations, elles sont essentielles. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau d'écraser complètement la spécificité de la pensée de Vivès. Alors, j'en viens à cette spécificité. Vous avez lu un texte particulièrement significatif d'un chapitre qui l'est tout autant. L'ingenium étant en effet l'une des apportations, des apports affreux hispanisme, un des apports essentiels de Vivès à la pensée de l'homme. Cet ingenium qu'effectivement on a beaucoup de mal à traduire, à mon avis il ne faut pas le traduire, en tout cas pas chez Vivès et pas chez Huarte, est en fait une une plongée dans les origines, dans la tradition latine du terme ingenium. C'est bel et bien vers le terme latin ingenium que Vives revient. À l'époque, on ne parle plus latin, on écrit latin, mais on ne parle plus latin. Et dans les langues romanes telles que l'italien et l'espagnol, où ingenio est un terme très courant, ingenio ne veut pas dire ce que veut dire l'ingenium vivesien. Pourquoi ? Parce que l'ingenio, à l'époque, aussi bien en italien qu'en espagnol, est devenu ce qu'on entend maintenant par ingenio, c'est-à-dire la vivacité de l'esprit.
L'habileté
exactement, l'acuité, la finesse. Et le terme ingenio a du coup évacué ce que l'on trouve encore en latin et que l'on traduit souvent par disposition naturelle, tempérament, complexion. Donc le terme ingenium va permettre à Vives de lier ces deux dimensions et le texte que vous avez lu le montre bien. Vives définit l'ingenium comme la force de l'entendement dans la mesure où il est conditionné par son instrument corporel. On met souvent en avant la première partie de cette définition de l'entendement par Vives, la force tout entière de notre entendement, mais on oublie la deuxième partie, qui en fait est essentielle dans la mesure où elle se découvre et se manifeste par l'intermédiaire des instruments, c'est-à-dire que l'ingenium est l'entendement en tant qu'il s'applique à connaître le monde à travers l'instrument corporel et pas l'entendement dans sa vivacité, etc. C'est dans l'entendement, dans sa vivacité, dans sa finesse, mais qu'il ne peut atteindre qu'en fonction de ce que lui permet son instrument corporel. Ici, mise en avant par cette image de la vitre, une vitre dont la vision va dépendre entièrement. Si elle est claire, on y verra plus clair. Si elle est sale, on y verra moins clair.
Ce serait le corps qui serait plus clair ou plus sale si on suit d'ailleurs cette métaphore qui est assez jolie en fait, de dire que le corps est une fenêtre à travers lequel l'esprit va pouvoir, l'entendement va pouvoir avoir accès au monde. Mais à quoi est due cette clarté
C'est le corps, c'est de façon générale, en fait, plus précisément, c'est le cerveau et c'est le tempérament du cerveau. C'est en fait le tempérament du cerveau, le fait de savoir s'il est plus humide, plus sec, plus chaud, qui va déterminer la façon dont l'entendement s'appliquera au monde. Alors c'est ça, exactement ça. Là, on a une typologie sommaire chez Vives qui avait déjà abordé la question dans son traité sur l'éducation, le De Disciplinis, mais ça reste assez sommaire et pas tout à fait systématisé chez Vives. Ce sera systématisé plus tard par Huarte.
Juan Huarte, dont on parlera tout à l'heure, mais juste pour rester sur ce texte, on y entend quand même des influences antiques, à la fois Aristote, ce livre s'appelle De Anima Evita, et le traité d'Aristote sur l'âme s'appelle le De Anima. Il reprend une tripartition de l'âme, sensitive, appétitive et intellective. Donc on peut se demander de quelle manière il va dépasser Aristote, mais on y entend aussi une influence platonicienne. Alors pour le coup, là il s'y oppose complètement. Le dualisme corps-esprit qui était présent chez Platon est ici complètement dépassé. Mais on peut quand même se demander de quelle manière le corps est l'instrument de l'âme. Est-ce que l'âme reste maîtresse à bord, ou est-ce que l'âme finalement n'est véritablement rien sans l'âme, sans le corps?
Oui.
Pardon, l'âme n'est rien sans le corps.
Oui, effectivement, l'influence de Platon et d'Aristote est bien présente. Alors, par rapport à Aristote, qui est sans doute l'influence la plus évidente de par le titre du traité et même sa composition. Par contre, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que si cette influence est bien là, on a pu écrire que Vives est aristotélicien sur les questions scientifiques et platonicien sur les questions morales. L'influence d'Aristote est bien là. Par contre, le traité de Vives n'a rien à voir avec un De Anima, un commentaire classique au De Anima d'Aristote. Je pense que souvent les commentaires du De Anima d'Aristote n'ont plus rien à voir avec l'original. Mais là, ici, en l'occurrence, il y a une très grande originalité par rapport à la composition même du livre. Le De Anima de Vives est bien construit en trois livres, mais qui ne correspondent pas à la composition aristotélicienne. anciennes. En gros, on peut dire que ce qu'on trouve dans le De Anima d'Aristote, on le retrouve dans le livre 1 et 2 du De Anima de Vives. Par contre, le troisième livre est consacré aux passions de l'âme, un traité des passions. Alors, ça reste bien aristotélicien en ce sens que la matière et le développement de chacune des passions de façon individuelle doit énormément à la rhétorique d'Aristote. Donc en gros, c'est comme s'il avait condensé en un seul livre le De Anima et la rhétorique. Et pourtant, la façon d'aborder et les passions et le lien entre le corps et l'âme dans l'Ingenium, mais aussi dans les passions, fait qu'effectivement, on dépasse complètement la perspective purement aristotélicienne. On dépasse également le dualisme platonicien. En fait, on a pris un peu à rebours les choses, puisque Aristote avait déjà servi à saint Thomas pour dépasser le dualisme platonicien qui embêtait tellement tout le monde depuis saint Augustin. Donc, c'est cette idée d'âme qui est constituée en trois âmes et qui spiritualise le corps, qui permet déjà à saint Thomas de dépasser le dualisme platonicien. C'est ce que va reprendre Vives ici, mais il ira au-delà de saint Augustin. Je m'exprime ainsi par commodité, non, c'est au-delà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence par rapport à saint Thomas. Il ira au-delà lorsqu'il s'agit de penser l'imbrication, effectivement la détermination de l'âme par le corps.
Et comment se passe cette imbrication véritablement? Alors, parce qu'on a parlé de l'ingenium qui effectivement marque cette harmonie-là, on a parlé du dépassement platonicien, de cette métaphore de la fenêtre, mais on se demande concrètement comment cette harmonie, quelle forme prend cette harmonie? Est-ce que le cerveau est juste une assise organique de l'esprit? Est-ce que finalement l'âme continue à être maîtresse à bord ou pas?
L'âme continue complètement à être maîtresse à bord, et ça pour Vives, c'est indépassable. Il reste quand même dans une cosmogonie très, très thomiste, une échelle des êtres où toute la création se dirige vers son créateur en montant les échelons patiemment. Donc on est tout à fait dans l'orthodoxie, et Vives se fera très attention. Autant il insiste sur l'influence et la détermination en grande partie du tempérament cérébral sur les fonctions cognitives, l'ingenium, autant il expliquera bien que malgré tout, l'entendement n'a pas d'assise organique, il n'a pas de siège organique. C'est une façon pour lui de défendre, bien sûr, la liberté de l'homme. On ne tombe jamais dans le déterminisme, malgré tout. Et d'autre part, l'immortalité de l'âme. C'est l'un des arguments classiques pour défendre l'immortalité de l'âme que Vives conservera. Donc, oui, tant que l'homme est en vie, et vous l'avez lu tout à l'heure, tant que l'homme évolue dans ce monde, il lui faut le corps, il en est déterminé, mais simplement dans deux points. C'est pour ça que je parlais de l'importance et de l'ingenium et des passions. Ce sont les deux points où vraiment cette imbrication joue à plein régime. Dans la dimension cognitive, c'est l'ingenium où le corps détermine l'esprit qui s'applique au monde, et c'est dans les passions, dans le domaine affectif, où les passions fonctionnent comme un stimuli pré-rationnel, mais bon dans la mesure où il est bien ordonné, et vertueux dans la mesure où il est bien ordonné.
Oh,
Vous êtes sur France Culture, il est 10h29 minutes et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est le début d'une semaine où nous partons à la découverte de la philosophie espagnole. Et aujourd'hui, pour évoquer les rapports entre philosophie et siècle d'or espagnol, pour mettre au jour la révolution humaniste de la philosophie espagnole, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Marina Mestre, maître de conférences de langue et littérature espagnole à l'ENS de Lyon et directrice adjointe de l'Institut d'Histoire de la Pensée Classique, auteur d'un livre à venir sur l'anthropologie des passions au XVIe siècle et d'une traduction du De Anima Evita de Juan Luis Vives dont nous sommes en train de parler. Le rire chez les hommes prudents et sages est plus rare et plus modéré. Il s'agit plutôt d'un sourire que d'un véritable rire, aussi bien en raison de leur pensée haute et intense que du fait que par leur prévoyance et par leur réflexion sur toutes les choses, peu de choses leur semblent nouvelles ou inattendues. En outre, la constitution corporelle chez les hommes d'un ingenium excellent est encline à la bile noire. Aussi, ils s'imposent eux-mêmes de ne pas rire sans retenue aucune, parce que cela va à l'encontre de la bienséance. Tout rire est certes naturel et nullement volontaire, mais il peut cependant être retenu par l'habitude ou la raison afin qu'il n'éclate pas de façon immodérée en secouant le corps tout entier. Comme c'est le cas pour les fous rires des gens incultes et grossiers, ainsi que ceux des enfants et des femmes sensibles, comme si ces derniers, saisis et agités de la sorte par le rire, n'étaient plus maîtres d'eux-mêmes.
Ce gentilhomme dont par égard nous cachons, quant à présent le vrai nom pour lui donner celui de Rodolphe, descendait avec quatre autres de ses amis, tous jeunes, évaporés et insolents, la pente que montait l'Hidalgo. Les deux escadrons se rencontrèrent, celui des brebis avec celui des loups, et plein d'une hardiesse grossière, Rodolphe et ses camarades, s'étant cachés la figure, regardèrent effrontément sous le nez de la mère, la fille et la servante. Le vieillard irrité leur reprocha en termes amers une telle audace. Eux répondirent par des grimaces et des quolibets, et, sans s'oublier davantage, passèrent leur chemin. Mais la grande beauté du visage qu'avait regardé Rodolphe, et c'était celui de la fille de l'Hidalgo qui s'appelait, à ce qu'on prétend, Léocadie, se fixa si bien dans sa mémoire qu'elle subjugua sa volonté et éveilla chez lui le désir de posséder cette fille en dépit de tous les inconvénients qui pouvaient en résulter. En un instant, il communiqua cette pensée à ses camarades. En un autre instant, ceux-ci résolurent de retourner sur leurs pas et d'enlever la jeune personne pour faire plaisir à Rodolphe. Car les riches, qui se font prodigues, trouvent toujours quelqu'un pour canoniser leurs sottises et appeler leurs vices des vertus.
De ces nouvelles que je t'offre, aimable lecteur, tu ne pourras en aucune façon faire un ragoût d'abattis. Car elles n'ont pied, ni tête, ni entrailles, ni rien qui y ressemble. Je veux dire que les compliments amoureux que tu y trouveras sont si honnêtes et si en accord avec la raison et les principes chrétiens qu'ils ne pourront éveiller de pensées mauvaises dans l'esprit attentif ou inattentif de celui qui les lira. Je leur ai donné le nom d'exemplaire car, si tu y regardes bien, il n'en est aucune dont on ne puisse tirer quelque profitable exemple. Et si je ne craignais d'allonger mon discours, je te montrerai le fruit honnête et savoureux que l'on pourrait tirer de toutes ensemble, comme de chacune en particulier. Mon dessein a été d'installer sur la grande place de notre République un jeu de billard où chacun se puisse entretenir sans crainte d'une mauvaise passe. Je veux dire, sans péril de l'âme et du corps, car les exercices honnêtes et agréables sont à rechercher, non à craindre. Oui, on n'est pas toujours dans les temples, on n'occupe pas toujours les oratoires, on ne s'entretient pas toujours d'affaires, si considérables soient-elles. Il y a des heures de récréation où l'esprit affligé se repose. Et c'est à cet effet qu'on plante les allées, qu'on cherche les fontaines, qu'on aplanit les côtes et qu'on cultive amoureusement les jardins.
Marina Mestre, on a tour à tour entendu un extrait du De Anima et Vita de Vita sur le rire que j'ai lu, puis lu par Jean-Louis Jacopin le prologue au lecteur de Cervantes, prologue à ses nouvelles exemplaires, dont on avait entendu un extrait là, interprété par Michel Bouquet, c'était un extrait de la nouvelle exemplaire La force du sang. Et l'idée de mettre en parallèle la littérature de Cervantes, mais aussi l'anthropologie de Bibès, sans les réduire l'une à l'autre, c'est plutôt de voir comment l'anthropologie de Bibès qui enracine l'esprit dans le corps, dirons-nous rapidement, permet de penser une singularité, ce que développe finalement la littérature, ce que développe peut-être Cervantes quand il parle d'exemple et d'exemplarité.
Oui, tout à fait. Le terme exemplarité dans les nouvelles exemplaires a beaucoup interrogé, continue de nous interroger tous ceux qui travaillons sur la littérature de cette période. Ça n'est pas une exemplarité qui aille de soi. Ça n'est pas une exemplarité évidente qui s'impose au lecteur. Au contraire. Comme c'est déjà le cas dans le Quichotte, Cervantes a une écriture extrêmement riche, extrêmement nuancée. Les choses ne sont jamais évidentes, ne vont jamais de soi. Et cette exemplarité qu'il revendique haut et fort dès la préface, après quand on lit les textes, elle ne va pas tant de soi. Et ça s'explique bien évidemment. En tout cas, c'est tout à fait mon avis. Par cette révolution anthropologique qui s'est produite quelques années auparavant et qui a permis de penser l'homme comme véritablement composé d'un corps et d'une âme, mais aussi d'un corps dont on ne peut plus faire l'impasse. En gros, là, je pense que là, pour le dire vite, la différence, c'est que auparavant, l'exemplarité s'adressait essentiellement à la raison du lecteur. En gros, on lui donnait un exemple et après on lui expliquait ce qu'il fallait en comprendre. Je vais vite, on peut nuancer au Moyen-Âge, etc. Mais en gros, on s'adressait essentiellement à la raison du lecteur. Au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, après Vives, après Huarte, après la philosophie antigua de López Pinciano, on ne conçoit plus le lecteur, ou en tout cas les grands écrivains ne conçoivent plus le lecteur comme une pure raison, mais comme un homme qui a ses passions et qui surtout attend de la littérature du plaisir. Alors,
il est question de récréation, effectivement, dans le prologue qu'on a entendu de Cervantes. De récréation, de divertissement,
tout
finalement.
Tout à fait. Le divertissement devient une partie intégrante de la nouvelle exemplarité. On considère, et ça, Vives, dont Marcel Bataillon avait dit que c'était un puriste affreux et que la littérature était très mal considérée par lui, en fait, je pense qu'il n'avait pas tout à fait compris. Vives mettait déjà en avant l'importance du plaisir dans la lecture. En gros, un discours qui ne s'adresse qu'à la raison, mais qui est ennuyeux au possible, ne fonctionnera pas, ne marchera jamais. Et ça, c'est la leçon qu'ont bien compris les écrivains du XVIIe siècle. Et je pense que, en partie, évidemment, on ne peut pas réduire l'explosion de la fiction en Espagne au XVIIe siècle, pas que de la fiction, de la poésie également, à cela. Mais je pense que cette nouvelle conception de l'homme, d'un homme dont on ne peut plus oublier les passions et le plaisir, est essentielle.
Y a-t-il une visée morale chez Bibès? On a dit par rapport à Aristote qu'il se distinguait d'Aristote, notamment dans ce troisième livre dont j'ai lu un extrait, qui est entièrement consacré aux passions et dont on a l'impression qu'il y a une dimension morale. On pourrait même dire qu'on a l'impression que Bibès parfois est un moraliste, c'est-à-dire qu'il fait une peinture des mœurs qui fonctionne aussi à l'exemple, en fait, aux singularités. C'est-à-dire on entend l'homme prudent est comme ça, l'homme inculte va rire de cette manière-là. On entend vraiment cet ancrage dans le singulier, mais non pas pour en faire une énumération, mais aussi pour en tirer une dimension morale.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait
raison. Ce serait une manière aussi de s'adresser à la raison, mais en prenant le biais en fait, des passions.
Oui. La dimension morale est absolument essentielle chez Vivès. Et effectivement, pour lui, le traitement qu'il fait des patients est à visée éminemment morale. Il le dit au début de son De Anima. La science des patients est la base de la morale, aussi bien publique que privée. Donc, la dimension plus esthétique ou plus rhétorique que l'on pourrait trouver chez Aristote est vraiment, passe dans un deuxième rang après la visée morale. Donc, tout à fait, et tout chez Vivès est pensé par rapport au salut de l'âme, à l'économie du salut de l'âme, tout, absolument tout. Ça n'est pas pour autant que c'est un moraliste épouvantable. C'est un moraliste, mais qui tient compte justement de la dimension la plus charnelle de l'homme, qui en tient compte. Et c'est pour ça, c'est pour mieux penser la dimension exemplaire qu'il faut tenir compte de l'homme tel qu'il est réellement. Et c'est ça dont va hériter sans doute Cervantes.
Sire, afin que les ouvrages des artisans fussent aussi parfaits qu'il est convenable pour le bien et pour l'ouvrage d'un État, il me semble qu'on devrait établir cette loi. Que le charpentier n'entreprit point sur le métier du laboureur, ni le tisserand sur la profession de l'architecte, ni le médecin de soutenir une cause, mais que chacun n'exerçât que cet art pour lequel il a une disposition naturelle et laissât là tous les autres. De peur que l'homme ne se trompât au choix de l'art qui lui est le plus propre, il devrait y avoir dans les royaumes des hommes établis exprès qui, dans le bas âge, découvrissent à chacun quel est son esprit et le contraignissent de travailler en l'art qui lui conviendrait le mieux. Je voudrais que toutes les académies qui sont dans vos royaumes pratique la même chose, et qu'il y eût des examinateurs pour savoir si celui qui veut étudier la dialectique, la philosophie, la médecine, la théologie ou les lois, a l'esprit qui est requis à chacune de ces sciences. Car autrement, cela est digne de pitié de voir un homme se travailler et se rompre la tête après une chose dont il est impossible qu'il vienne à bout. Tous les philosophes anciens ont trouvé que quand il manque à l'homme une certaine disposition naturelle à la science, c'est en vain qu'il se tue à apprendre les règles de l'art. Mais pas un d'eux n'a déclaré distinctivement quelle disposition naturelle rend l'homme habile à une science et incapable pour une autre, ni combien il se trouve de différences d'esprit parmi les hommes, ni quels arts et sciences répondent à chacun en particulier, ni par quelle marque on pouvait le reconnaître, qui est pourtant ce qui importe le plus.
Marina Mestre, alors là on a entendu un texte d'un autre philosophe que vous avez déjà évoqué, Juan Huarte, donc un texte, un extrait interprété toujours par Jean-Louis Jacopin, et c'est un extrait de l'examen des esprits, enfin du moins ce qui a été traduit par examen des esprits, en fait en espagnol c'est le terme ingenios et non pas esprit, d'ailleurs dans le texte qu'on a entendu il s'agit de disposition naturelle, on retrouve ce lien entre Vivès et Huarte de l'ingenium, mais ici non plus dans une dimension morale comme il était question chez Vivès, mais plus dans une dimension politique. Pour qu'une monarchie soit bien gouvernée, ou du moins tienne bon, soit pérenne, il s'agit que chacun, en fait, exerce le métier, la fonction qui revient, qui soit en accord avec sa disposition naturelle. Le problème, dit Huarte, c'est que personne ne s'est posé la question de savoir comment on définissait cette disposition naturelle, quelle marque on lui trouvait pour la distinguer.
Oui, alors effectivement, Huarte est un nom important dans la pensée espagnole de l'époque. Il n'est pas vraiment philosophe, c'est plutôt un médecin. Donc à l'origine, son livre a effectivement une visée politique. En gros, il s'inscrit dans l'héritage vivésien. Il ne cite jamais Vivès, il dialogue directement avec Galien, avec Aristote, jamais avec les contemporains, et surtout pas avec Vivès. Mais si on prête attention, son ingenio n'est pas, est lu par contre écrit en espagnol, ça n'est pas l'ingenio espagnol, c'est bien l'ingenium de Vivès. Donc c'est il part de cette implication que l'on trouve chez Galien, dont il se réclamera bien sûr, mais c'est cette idée qu'il reprend, cette implication du corps dans la détermination des actions humaines. Alors, la grande différence par rapport à Vivès, c'est qu'il s'agit d'un médecin et que lui, au début, ce qu'il veut, c'est en gros systématiser ce que Vivès n'avait fait qu'ébaucher. À partir de sa connaissance médicale, il pense être en mesure, et d'ailleurs il proposera, un système pour classer les intelligences en fonction du tempérament cérébral. Ça, c'est la volonté de son livre quand il paraît la première fois en 1575. Problème, ce qui est très drôle et ce qui le rend extrêmement intéressant pour nous, c'est que cette systématisation à laquelle Vivès ne s'était pas hasardé, probablement pas faute de moyens intellectuels, mais parce que il sentait bien qu'il y avait un problème, cette systématisation repose sur une anthropologie qui est déterministe. Une anthropologie qui, elle, va faire voler en éclats la belle harmonie que Vivès avait réussi à mettre en place et partant du principe que toute fonction de l'âme a besoin d'un instrument pour s'accomplir, il fait voler en éclats cette harmonie et on tombe réellement dans le déterminisme du corps. Le livre sera attaqué par l'Inquisition. Il y aura une deuxième version extrêmement intéressante où Arte il ne reviendra pas du tout sur son anthropologie. Il essaiera de la justifier et on voit disons, se préciser une anthropologie aux nuances augustiniennes évidentes.
Alors que chez Vivès, on avait quand même cette impression-là que l'homme pouvait jouer sur ses passions, sur son corps. C'est-à-dire que le corps est à la fois moteur de l'action, mais c'est aussi, du coup, le signe d'une liberté de l'homme. Ce qui n'est pas le cas chez Huarte, où là, pour le coup, on est véritablement enfermé dans le corps. Il y est question de tempérament, d'humeur, qui sont proprement déterminantes et qui vont nous empêcher d'agir de la manière, en fait, dont on pourrait vouloir agir. C'est-à-dire que la volonté, pour le coup, est complètement absente.
Absente, complètement absente. Alors, ce système des humeurs et du tempérament, on le retrouve déjà chez Vivès. Mais comme Vivès avait pris soin de ne pas donner une assise organique à l'entendement, de le laisser libre, du coup, la volonté avait un moyen de s'imposer. Chez Vivès, les trois fonctions de l'âme rationnelle sont la mémoire, l'entendement et la volonté. Façon tout à fait classique. Chez Huarte, on revient à une tripartition de l'âme galénique. Pour lui, les fonctions de l'âme rationnelle, il n'y a qu'une âme. C'est la rationnelle qui intègre toutes les autres, mais on ne parle que d'âme rationnelle chez l'homme. Et les trois parties sont l'imagination, la mémoire et l'entendement. La volonté a disparu. Il s'en expliquera dans la deuxième version de son livre. Il dira, non mais si, la volonté, bien sûr, elle existe. Mais tant que l'homme est en vie, il est déterminé par son corps. Il n'emploie pas le terme déterminé, mais c'est bien ça l'idée. Donc, de façon abstraite, oui, bien sûr, Dieu existe, l'homme est libre, mais de façon purement métaphysique. Mais tant que l'âme est dans le corps, elle dépend rigoureusement du tempérament du corps. Et Huarte défend que l'on puisse intervenir et orienter son comportement. Mais ce sera toujours par des moyens, disons, mécaniques, médicamenteux. Il explique comment faire pour changer le tempérament, pour ainsi changer le comportement. Et il s'amuse beaucoup des moralistes qui, dit-il, en gros, châtie un homme bon vivant, le met au régime, lui empêche de fréquenter des femmes, lui empêche de boire de l'alcool. Ils disent ces gens se réjouissent de voir leurs patients devenir vertueux en quelques mois, maigrir, s'assécher, etc. Il dit, en fait, la vertu n'est pas venue en volant par les airs, c'est simplement que par ce régime, ils en sont venus à modifier le tempérament. Et du coup, le comportement a changé. Le comportement ne change pas par l'effet de la volonté, mais parce qu'on a modifié le tempérament qui le détermine.
En quoi héritons-nous aujourd'hui, d'une certaine manière, Marina Mestre, de cette révolution humaniste qui va placer le corps au centre de tout, dans lequel l'esprit va devoir s'enraciner? On parle de ce terme de tempérament, d'humeur. C'est des termes dont on entend beaucoup parler, finalement, qui sont un mélange d'inné et d'acquis, sur lesquels on peut travailler, mais en fait pas vraiment. Enfin, est-ce que cette question du tempérament, c'est peut-être ce qui est resté de cette anthropologie de Vivès et aussi de Huarte?
ces questions de tempérament, ça ne fait plus tellement partie de notre vocabulaire pour penser l'homme. Mais c'est vrai que dans le nouveau, enfin, ce que j'ai pu lire des recherches en neurosciences et sur les liens entre l'esprit et le corps actuellement, c'est vrai qu'on retrouve sinon les termes, mais en tout cas les idées, oui.
Et quelle pourrait être du coup la manière dont Huarte et Bibès pourraient être repris aujourd'hui ou relus ou qu'est-ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui de cette anthropologie tout à fait révolutionnaire?
Alors, pour nous, de nos jours, ça ne paraît plus tellement révolutionnaire puisque c'est bien installé désormais.
Et ça pourrait venir d'ailleurs de Bibès et Huarte. C'est-à-dire que si cette anthropologie est bien installée là, on en hérite.
Mais tout à fait, je pense qu'il faut travailler d'un point de vue d'histoire des idées, d'histoire de la philosophie, sur l'influence qu'ils ont pu avoir dans les penseurs, les philosophes qui ont mis en place au XVIIe siècle, français, anglais, la nouvelle science et la nouvelle philosophie. Je pense que ce travail reste effectivement à faire pour ne pas en faire des précurseurs, comme je disais tout à l'heure, et les écraser sous ces grands noms, mais au contraire montrer. On sait que Spinoza avait Huarte dans sa bibliothèque, Lessing a traduit Huarte plus tard, Bacon avait lu Huarte, Vivès également était extrêmement connu à l'époque. Donc je pense qu'il faut effectivement travailler à réinstaller les auteurs espagnols à la place qui leur revient dans ce concert européen des idées dont nous sommes effectivement les héritiers de nos jours et dont ils ont été injustement ou malheureusement exclus.
Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren, como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Anunciamos algo nuevo, anunciamos algo nuevo.
Merci à vous Marina Mestre d'être venue ouvrir cette semaine sur la philosophie espagnole. On aurait pu encore dire énormément de choses sur Bibès, sur Huarte, sur philosophie et littérature. En tout cas, vous êtes l'auteur donc d'un livre qui va venir très rapidement sur l'anthropologie des passions au XVIe siècle et puis aussi d'une traduction du De Animae Vita de Juan Luis Bibès. Et puis je signale aussi que l'on trouve les nouveaux exemplaires de Cervantes en folio classique. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons demain pour la suite de cette semaine espagnole. Et demain, ce sera de Balthazar Gracián, du héros à l'homme de cour, en passant par l'homme universel, Balthazar Gracián ou l'art du travestissement, dont nous parlerons avec Benito Pellegrin. Et puis quant à vous, et bien pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.